J'aimerais vous partager ce que j'ai lu il y a déjà un certain temps sur l'Ecclésiaste. Mais avant ça, j'aimerais vous dire que cette semaine, un petit Samuel de 7 ans a été repris par le Seigneur. La vie peut être courte. Pendant la nuit, l'enfant se lève et fait un malaise. Le papa s'en aperçoit. Il appelle tout de suite le 144, il lui fait des massages cardiaques conduits par un médecin par téléphone. Cet enfant est pris en charge, il reste un jour dans le coma, puis le Seigneur le reprend. La vie est courte. La vie est courte. Dans ces 10 derniers jours, j'ai visité quelqu'un, 97 ans. Cette personne m'a dit: je ne sais pas quand je partirai, mais personne ne sait. Une autre personne m'a dit la même chose. J'ai ma belle-mère qui est malade, profondément malade. Je ne sais pas quand elle partira. Je devais faire un voyage, je ne veux pas partir. Et puis à ces deux personnes, j'ai rendu le témoignage que j'avais donné, ce que j'avais. Comment j'avais accompagné ma mère en fin de vie. Et les médecins lui donnaient effectivement des mois encore avant qu'elle parte. Et en fin de journée, elle est partie. Dieu seul sait quand on partira. Mais il y a une chose, et c'est Charles Stoud qui le dit: une seule vie qui passera vite, mais seul restera ce qui est fait pour Christ. C'est vrai, on a chanté: mon réconfort, mon rocher, je tiendrai par la foi. Et vraiment, cette famille qui a perdu cet enfant tient par la foi. Mais nous, en tant qu'Église, on a à prier pour cette famille, pour les frères et sœurs. Et puis, il y en a certains qui se disent: ouais, la vie est courte, mais finalement, il y a la réincarnation. Enfin, ils en parlent que ne sont pas trop concernés. Mais une fois qu'on arrive en fin de vie, où on prend conscience, à ce moment-là, c'est plus délicat. Mais la Bible est précise là-dessus. Chaque homme, chaque femme a une seule vie. L'Écriture dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement? Une seule fois. À nous de rechercher le temps d'une vie. Le sens de cette vie, on a lu les versets dans Pierre qui nous disent que Christ est la pierre angulaire. À nous de rechercher le sens de la vie. Et quelle est cette pierre angulaire? L'espérance de vie en Suisse, on a de la chance, 80 ans pour un homme, 85 ans pour une femme. Nos femmes ont plus de chances que nous, mais bon, 85 ans, 5 ans de différence, des fois c'est pas... Hein, c'est pas beaucoup sur une vie. Au Burkina Faso, 59 ans pour un homme, 60 ans pour une femme. En Inde, 67 ans pour un homme, 70 ans pour une femme. En Suisse également, d'après les statistiques, l'espérance de vivre en bonne santé, environ 73 ans. Après, on rejoint le club de Tamalou. Il y a une réalité qui est là. Et John Piper a écrit: les temps changent. Prenons l'exemple des baby-boomers. Aujourd'hui, leur vie a changé. Elles sont soudain très courtes. La douce nostalgie des années 60 est devenue douleur. Douleur de voir cette époque chérie par beaucoup, qu'elle est déjà si lointaine. Et cela nous rappelle une réalité irrémédiable. Nous mourrons tous un jour. Mais faut-il nous arrêter là? Non. Et ce matin, j'aimerais aborder quelques aspects d'une vie. Une vie qui passe vite au fond. Une vie de vanité. Une vie en partie présentée par l'Ecclésiaste. Des réflexions tirées de notes de l'Ecclésiaste de Gilles Georgel en partie. Et puis une vie de bénédiction. Un impératif de vie. Une vie de vanité. Vous avez peut-être vu ou voir le Musée d'Anglie. C'est super ce qu'il a fait. Vraiment, vous voyez, c'est de la récupération, mais tout tourne, ça bouge, etc. Mais pourquoi? Pourquoi? Et puis la richesse des objets, c'est toute la récupération, mais qu'est-ce que la société a consommé? Mais quel est le sens de la vie? Ça bouge, certes, ça bouge. Mais où va-t-on? Et l'Ecclésiaste pose, en fait, au début, ses réflexions. Quel avantage l'homme retire-t-il de tout labeur pour lequel il trime sous le soleil? Et puis, l'Ecclésiaste conclut, une génération s'en va, une autre vient, et la terre est toujours là. L'Ecclésiaste lui-même va chercher le sens de la vie. Il nous faut relever que chacune de nos activités peut procurer du plaisir, c'est vrai. Et c'est pas étonnant que l'Ecclésiaste va explorer différentes pistes pour trouver le sens de sa vie. Je me suis dit à moi-même, va donc, teste les plaisirs et goûte ce qui est bon. Et il cherchera, comme beaucoup de nos contemporains, comment trouver le sens de la vie. Et nous, à travers ce qu'il dit, on voit peut-être quelqu'un qu'on côtoie dans la semaine ou dans le mois. Par exemple, des personnes qui cherchent dans la joie, dans le rire. Et c'est vrai qu'une comédienne est décédée il n'y a pas si longtemps. Elle riait beaucoup. Mais elle a demandé à partir. Elle a décidé de partir. Quelle est son espérance? Et c'est vrai que les joies du monde passent. Ils sont éphémères. Mais c'est vrai que de tout temps, on aimait rire. Les rois et même des bouffons. C'était la fuite, la distraction. Mais à quoi cela nous avance-t-il? L'Ecclésiaste conclut, du rire, j'ai dit, c'est absurde. Et de l'hilarité, à quoi cela m'avance-t-il? Certains vont chercher aussi dans le vin. Oui, le vin réjouit le cœur de l'homme. Mais il peut avoir des conséquences graves lorsque sa consommation n'est pas maîtrisée. À nous de prier pour ces personnes qui sont liées par certaines addictions. Dans la construction de maisons, de jardins, les pierres restent au-delà des vies des hommes. Et on peut se poser la question concernant le temple de Salomon. On voit qu'il y a bien un mur des lamentations à Jérusalem. Ça ne reste pas. On peut posséder une maison, on peut avoir un sentiment de sécurité, on peut avoir un jardin, un sentiment de bien-être, mais de toute façon, ces plaisirs sont limités, limités dans le temps, très limités. Dans les richesses, l'Ecclésiaste a été cherché dans les richesses, mais les richesses laissent beaucoup de personnes au bord du chemin. Et puis, il peut y avoir aussi une addiction. On peut être esclave de ses richesses. Dans la musique ou les arts, c'est vrai qu'il y avait un chanteur qui disait « Je chassais mes idées noires en chantant. » Et puis même dans la Bible, on fait référence à ça. Hein, avec Saül qui demandait à David de jouer pour qu'il soit apaisé. Donc la musique apaise. Mais on le voit dans la Bible, David a été apaisé que pour un temps. Et puis après, ça revenait. On peut chercher aussi dans la gloire, dans la grandeur. Et c'est ce que fait Ecclésiaste, il va chercher ça dans la gloire, la grandeur. Mais là, c'est illusion aussi, illusion. Il peut y avoir un sentiment de satisfaction parce que notre ego est satisfait, mais ça ne dure pas. Le cœur est souvent vide. Et on croit avoir un pouvoir, on croit avoir de la grandeur, mais tout s'effondre tout d'un coup. Dans le travail, et c'est arrivé, il y en a certains qui m'ont dit « Ah, je ne vais pas bien, mais heureusement j'ai le travail. » Et puis, je m'enfonce dans le travail. Mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Hein? Dieu a voulu que nous puissions trouver des satisfactions effectivement dans le travail. Mais il a voulu qu'on travaille pour lui. Que le travail soit aussi à sa gloire. Et pas que nous recherchions notre identité dans notre travail. Que ce soit une occupation à outrance. Et d'ailleurs, on le voit parce que dans la manière de se comporter de l'homme, il y a une exploitation des ressources, voire des personnes. Et on perd vraiment le sens que Dieu a donné au travail. Et les conclusions tirées par l'Ecclésiaste, « J'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir, et voici ma conclusion, tout est vain. Autant courir après le vent, on n'en tire aucun avantage sous le soleil. » Ecclésiaste 2:11. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, aussi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Ecclésiaste 3, 19 à 21. C'est pas très brillant, hein? Pas très brillant jusque-là. Mais l'Ecclésiaste ne s'est pas trompé, il a affirmé aussi la chose suivante. Tiens compte de ton Créateur. Il sait qu'il y a un Créateur. Tiens compte de ton Créateur au temps de ta jeunesse, avant que t'adviennent les jours mauvais, avant que viennent les années où tu diras, je n'y prends pas plaisir. Ecclésiaste chapitre 12. Mais au-delà de cette vie de vanité, il y a aussi une vie de bénédiction. Et elle nous est soulignée dans la parole. Il y a d'abord le respect du sabbat. Mais je vous vois venir, attention, qu'est-ce que ça va, on va nous mettre une chape, hein? Non, Ésaïe 58 dit, « Si le jour du sabbat, tu te retiens de travailler, si tu t'abstiens de traiter tes affaires en ce jour qui m'est consacré, si pour toi le jour du sabbat est un temps de délice, si ce jour de l'Éternel, tu le tiens en estime et tu le respectes, en t'abstenant de faire ce qui te plaît, de traiter tes affaires et de te tenir de longs discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et tu le feras monter, et je te ferai monter, pardon, sur les hauteurs du pays. » Ésaïe 58, les versets 13 et 14. Mais qu'est-ce que respecter le sabbat? En fonction de ce qu'il a dit, c'est prendre le temps d'une vraie intimité avec Dieu. C'est avoir un temps de délice avec lui. C'est se rapprocher vraiment de lui dans ce jour particulier. C'est rester attaché à l'alliance que Dieu a faite par Jésus-Christ. Et voici ce que dit l'Éternel. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. C'est lui qui va nous amener. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Dans Exode 3, lors de l'appel de Moïse pour aller auprès de Pharaon, certaines traductions disent, non pas « va, je t'enverrai », mais « viens, je t'enverrai vers Pharaon ». « Viens d'abord vers moi ». Et je trouve intéressant que Dieu souligne cet aspect d'aller d'abord vers lui. Parce que c'est lui qui va nous emmener vers ce lieu élevé. Un lieu séparé du monde. Un lieu d'intimité. Et avec Moïse, c'est la même chose. Moïse a été amené sur la montagne dans la présence de l'Éternel. Et il a été porté. Et il a vu un Dieu miséricordieux, un Dieu plein de compassion, un Dieu saint, un Dieu même très saint, parce qu'il a été souligné dans les mêmes circonstances que le peuple ne s'approche pas de la montagne de peur qu'il ne périsse, parce qu'il ne pouvait pas s'approcher d'un Dieu trois fois saint. Mais Dieu a permis à Moïse de monter sur la montagne, d'avoir cette intimité avec lui. Et quelles ont été les conséquences de cette intimité avec lui? Quand il est redescendu, il est rayonnant. C'était quelqu'un de radioactif, à quelque part, rayonnant de la gloire de Dieu. C'est ça que Dieu veut. Et pourtant, Moïse n'a pas eu une vie facile, loin de là. Mais il a eu cette intimité avec Dieu. Et puis il y a un autre homme, Élie, qui marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Dieu l'amène aussi dans sa présence. Et puis l'Éternel passe, et c'est d'abord un vent fort et violent qui déchirait les montagnes, qui brisait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. L'Éternel était... Et il y a eu après un tremblement de terre, un feu, et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un doux murmure, doux, léger. Et l'Éternel était là. Dans les deux cas, c'est l'Éternel qui intervient, qui va auprès de ses serviteurs, qui les amène à la montagne. Et ce verset nous souligne cet aspect pour chacun d'entre nous. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé par Jésus-Christ notre Seigneur. Étant unis à lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Étant unis à Christ, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Lui nous amène, nous prend par la main. Sur cette montagne sainte, il y a une maison de prière. Dieu amène son peuple dans cette maison de prière. Une maison bénie et de bénédiction pour tous les peuples. Jésus nous a montré l'exemple. Combien de fois ne s'est-il pas tenu à l'écart? Ne s'est-il pas tenu dans la présence même de Dieu? Et même avant la croix, il se tient dans ce jardin. Il se tient dans la présence de Dieu. Et là, il est épuisé. Et Dieu le voit et Dieu le secourt. Il lui envoie un ange. Une vie ou un impératif de vie. Un impératif pour nous de nous tenir à l'écart, de nous laisser amener dans la présence de Dieu. Il y a ce verset que j'aime beaucoup, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Une maison de prière. Notre chambre peut être une maison de prière. Et Dieu nous voit, pas seulement nous entend, mais nous voit dans ce lieu secret. Il voit cette famille qui a perdu cet enfant de 7 ans. Il les voit. Même s'ils n'arrivent peut-être pas à exprimer leur douleur. Peut-être que ce n'est pas possible encore maintenant. Ils ont confiance en Dieu. Mais peut-être que ce n'est pas possible. Mais Dieu voit. Voit. Leur être entier peut-être exprime d'autres choses. Mais Dieu voit. Et Dieu les rencontre. Et avec cet impératif de vie de sa présence, eh bien, on portera le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et l'espérance. Et l'Écriture nous rappelle que l'arbre se reconnaît à ses fruits. Et quelqu'un qui connaît bien cette famille dit, mais ils avancent avec calme et confiance. Pas dire qu'ils ne sont pas blessés, mais ils avancent dans la dépendance de Dieu. Que Dieu les bénisse. Suis-je conscient que Dieu me voit et sait toute chose? Psaume 139. Ô Éternel, tu sais. Un impératif, un premier impératif, vivre dans la dépendance de Dieu. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. Psaume 127, 1. Et puis un deuxième impératif, vivre dans cette maison de prière. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Soyez toujours joyeux. Dieu peut nous donner cette joie malgré des circonstances difficiles. Vous désirez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et jaloux, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. La prière du juste agit avec une grande efficacité. Et puis il y en a d'autres qui disaient, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Et ça a été même jusqu'à ce que la prison s'ouvre. Dieu agit, Dieu entend l'adoration, la prière, la dépendance de lui. Et puis il y a un troisième impératif qui est un impératif de transmission. Et ça, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. On trouve ça dans Deutéronome 6. Et je trouve que c'est une vraie vie de consécration et qui engendre la transmission de ce message. L'Éternel dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Dans ton cœur, un évangile vécu dans son cœur. Inculquera. Que veut dire ce mot ? Inculquer. C'est graver, imprégner, insuffler, mettre dans la tête. Faire entrer quelque chose dans l'esprit de quelqu'un. Inculquer nos enfants, c'est avoir une influence. C'est leur insuffler, leur montrer la vie de Dieu à travers nos vies. Tu en parleras ? Alors quand tu seras dans ta maison, chez toi, parle du Seigneur. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, quand est-ce qu'il faut en parler? Tu les liras comme un signe entre tes mains. Et ça, je trouve que c'est beau. Tu les liras comme un signe entre tes mains. Quoi que tu fasses, fais-le pour le Seigneur. Fais-le pour la gloire de Dieu. Et puis, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Et là, on se rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, le visage de Moïse qui rayonnait de la présence de Dieu. Est-ce que quand je vous regarde, est-ce que vous voyez rayonner la présence de Dieu? Pas trop, hein? Pas suffisamment. Mais c'est ce que Dieu veut, c'est qu'on rayonne de sa présence. Que Dieu m'aide, que Dieu me secoure, que lorsqu'on me regarde dans les yeux, on voit quelque chose du Seigneur. Et puis, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Toute ta maison, toute ma maison, se doit de respirer la présence de Dieu. Et juste un témoignage. L'année passée, il y a une personne qui est montée dans un séjour à Isenfluh. C'était la première fois. Et puis, elle connaissait certaines choses de la parole, mais peut-être pas énormément. Puis je me suis dit, ouf là, c'était le thème sur l'Apocalypse, ça avait changé de thème, parce qu'il y avait eu un petit problème avec l'orateur, avec la femme de l'orateur qui était prévue, ça avait changé de thème. L'Apocalypse, qu'est-ce qu'elle comprend? Et cette personne nous dit à la fin, ah ben j'ai pas mal compris de choses, mais c'est merveilleux, Dieu est vraiment grand. Je me suis dit, ah bon. Et puis, ce que j'ai apprécié, c'est la manière dont j'ai été accueilli durant tout le séjour. Mais ça respirait la présence de Dieu, la paix de Dieu. Est-ce que ma maison respire la présence de Dieu? Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, sur tes portes. Non seulement à l'intérieur de la maison, ça respire la présence de Dieu, mais aussi quelqu'un qui vient voit que Dieu est là, Dieu existe. Et puis, pour terminer, l'appel à la prière, parce que je crois qu'on ne peut pas se passer de cet élément-là, un élément vital. Et l'apôtre Paul dit en Éphésiens 6, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint, en particulier pour moi. Donc pour tous les membres du peuple saint, et en particulier pour moi, pour tous les membres de l'Église. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. C'est cet Évangile que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc que je l'annonce avec assurance, comme je dois en parler. Un ambassadeur, mais enchaîné. De nombreux chrétiens vivent aujourd'hui la persécution. Alors en Occident, on vit encore une certaine liberté. Je ne sais pas pour combien de temps, mais on vit encore une certaine liberté. La vie avec Dieu n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Mais sa paix, sa joie peut envahir nos cœurs si on le lui demande. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et la Bible souligne que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sacrifice de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. C'est tous ceux qui sont persécutés pour Christ. Même ceux qui sont dans ces pays-là vivent. C'est étonnant. Ça ne devrait pas l'être pour nous ou pour moi, mais c'est étonnant. Ils vivent la joie d'être dans la présence de Dieu. Et j'aimerais conclure par ce verset, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière, et terminer en vous lisant la prière que Jésus a enseignée, et je vous la lis en français courant. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. Que ton règne vienne. Que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Pardonne-nous nos torts comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours.